À 2, 4 ou 5 ans, Eric avait été beaucoup gardé par sa grand-mère, mis à l'abri chez elle, dans le confinement du petit appartement où ne l'atteindraient pas les débordements paternels. Annette se débattait, quittait Didier, le reprenait, déménageait, trouvait du travail, n'importe quel travail, confiait l'enfant à sa mère, espérait, voulait y croire, essayait encore une fois, avec Eric qui grandirait entre père et mère, ce serait mieux le père et la mère, même si Didier l'avait promis, il promettait, encore toujours, il ne recommencerait pas, il tiendrait sa place, il rentrerait s'entraîner. Il avait un vrai métier entre les mains, de l'or dans les doigts, plombier chauffagiste. Il pouvait tâter aussi de la climatisation, qui relevait pourtant d'une autre spécialité, mais il comprenait tout très vite, savait voir autour de lui, regarder, observer, inventer les bonnes solutions, et avait 1000 idées à la seconde. On aurait pu vivre tranquillement, avoir une maison à soi, être comme tout le monde. Elle aurait travaillé sans plaindre sa peine. Elle avait cru. Elle avait supporté, attendu, fait confiance, supplié, pleuré, rendu des coups, bu des bières ou du blanc, seule dans la cuisine, et fumé des cigarettes âcres qu'elle allumait l'une à l'autre, et récupéré Didier au café dans le silence gras des autres hommes qui la touchaient de leurs yeux perdus. Il savait, elle savait qu'il savait, et humait, qu'elle y passerait quand même à la casserole. Une fois rentré, le Didier dans n'importe quel état, c'était une force de la nature, un gars qui laissait pas tout sans faire. Il lâchait les détails quand il en avait un bon coup dans le nez. Elle crachait pas dessus non plus l'Annette, avec son air de rien. Elle en avait de ses obus, fallait avoir sucé ça pour savoir ce que c'était. Elle sentait sur elle le regard poisseux des hommes collés au comptoir, leur sueur, leur haleine, quand elle entrait sans s'approcher. Quelqu'un finissait toujours par se retourner, se détacher du rempart des dos amarrés massifs noyés noués. Didier ne criait pas, ne l'insultait pas, n'avait pas de gestes devant les gens. Il disait « Voilà le gouvernement, la patronne ou la baronne » et la suivait. On rentrait, on finissait par rentrer, après la naissance d'Éric. Pendant les premiers mois, ils avaient connu une embellie, un temps de commun émerveillement. Didier regardant l'enfant, osant à peine le toucher, avant de s'apprivoiser, de trouver les gestes justes et doux pour les soins ou le bain, absorbé, muet et recueilli, et comme en aller, au moment des tétés dont Annette gardait le souvenir humilié d'une vertigineuse perfection. Ensuite, il y avait eu une première incartade, une deuxième, et la pâte épaisse des habitudes ressurgies les avait embluées. Les 2, les 3, l'enfant aussi qui apprendrait la crainte, le silence et les joies furtives, comme arrachées. À Fridière, Annette remontait le cours chargé de sa mémoire, dans les jours gris et brefs de janvier. Éric avait repris le collège et ne rentrait pas avant la nuit. Elle avait un peu parlé avec sa mère de ces temps terribles, des espérances rabotées, de ceux qui avaient été laissés quitter remisés à l'autre bout de la France. Et ne la poursuivrait pas dans les neiges de Fridière où elle était, avec Éric, une sorte de réfugiée. Il ne devait pas être rattrapé, il ne le serait pas. Sa mère supposait qu'elle n'avait pas tout dit à Paul, qu'elle n'avait pas lâché le plus misérable, les coups qui donnaient honte à plein ventre, et les gendarmes, l'obligation de soins, les équipées délirantes, les récidives, la prison, elle cachait, pour Éric, pour qu'il ne soit pas contaminé et ne porte pas sur lui, dans sa peau, sous son nom, la marque d'infamie. Paul ne cherchait pas, ne chercherait pas à savoir. Annette et sa mère l'avaient senti quand, à Bailleul, il s'était enfoncé dans les préparatifs du déménagement, parlant peu, affairé, pressé d'en finir, et comme intimidé par ce pays trop plat, jeté sous le ciel sans fin. Nicole et les oncles étaient d'une autre eau. Eussent-ils perçu le plus mince écho des affres violentes traversées par cette femme et ce garçon dont Paul imposait la présence, en leur précaré qu'ils se fussent battus, bec et ongles, sans merci ni répit, pour expulser les créatures étrangères, les corps impurs, et conduire à résipuissance le frère égaré, Paul, le maillon faible. Une guerre couvait qui, pour rester sourde, n'en serait pas moins longue et difficile. Guerre d'usure et de patientes tranchées. Annette l'avait su bien avant d'arriver à Fridière, quand, dès les premiers mots de Paul, avait surgi ce prénom de femme qui aurait pu être celui d'une précédente compagne, d'une mère, d'une sœur. La précision aussitôt apportée par Paul, comme désireux de combler ainsi la béance ouverte, ne changeait rien à l'affaire. Le lien était là, et Paul avait toujours une femme dans sa vie, circonstance à laquelle il devait probablement, Annette et sa mère le devinaient, de n'avoir pas tourné aux sauvages majuscules comme les deux oncles, dont l'impeccable tenue de corps et le tour d'esprit malicieux peinaient à dissimuler la violente autarcie. La mère d'Annette avait compris ces choses, et beaucoup d'autres, qu'elle n'aurait pas su dire avec des mots, privée qu'elle était comme sa fille, de tout commerce aisé avec le Verbe, Annette vit repartir sa mère, que l'on reconduisit à la gare par un dimanche matin accablé de vieille neige grise, avec le sentiment de ne l'avoir qu'à demi rassurée sur ses chances de réussir au long cours cette vie nouvelle qu'elle avait voulu, soucieuse de faire maison, de le tenter du moins, encore une fois, avant que l'âge, le manque d'illusion et tout le reste ne la rendissent définitivement inapte à cette périlleuse acrobatie du couple rassemblé. Pièces et morceaux, Annette ne s'habituait pas à l'étable, où, malgré sa bonne volonté, elle ne savait pas se placer, ni se mouvoir, ni se montrer l'efficace.